Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL dans lequel je voulais revenir aujourd'hui sur une faillite retentissante.
Et puis votre note, 1 sur 20 à Sam Bankman-Fried.
Milliardaire au début 2022, ruiné aujourd'hui. Il a perdu 94% de sa fortune en quelques heures. Il est à la tête de la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies et il a fait faillite la semaine dernière. Il n'a pas trouvé de repreneur.
Après cette faillite de FTX, j'avais envie que l'on tente de pénétrer cet univers, il faut bien le reconnaître, un peu obscur des crypto-monnaies. Qu'est-ce que c'est d'abord que ces crypto-monnaies ? Sont-elles fiables ? Alors justement que l'un des acteurs principaux vient donc de s'effondrer, sont-elles une autre de ces bulles que seul le numérique est capable de créer pour répondre à ces questions. Une voix de RTL que l'on vient d'entendre en amorce de ce focus, Martial Liu, bonjour.
Bonjour.
Et Benjamin Hu, spécialiste des sujets liés au numérique à la rédaction de RTL. Bonjour, bonjour à toi. D'abord, on va faire simple, Martial. Une crypto-monnaie, c'est quoi ?
Je ne sais pas si on peut faire simple pour définir une crypto-monnaie. Accrochez-vous quand même. Bon, ça va faire un petit peu réac de ma part, parce que je vais faire une comparaison. C'est un peu comme le Monopoly, en fait. Il faut accepter les règles du jeu, c'est-à-dire de créer une monnaie et de dire que c'est avec cette monnaie-là qu'on va échanger ensuite ensemble. La crypto-monnaie, au départ, vous avez Internet, des ordinateurs qui produisent des pièces de monnaie. Alors la plus connue, c'est les bitcoins. Et à partir de là, chaque transaction, on achète cette monnaie-là, virtuelle, électronique, et on lui donne une valeur. Donc vous avez une sorte de bourse de ces crypto-monnaies qui valorise, ça monte, ça baisse, c'est très volatile bien évidemment. Et une fois que vous avez un portefeuille de monnaie, d'argent virtuel, chacune de vos transactions est cryptée. C'est pour ça qu'on appelle ça des crypto-monnaies, c'est-à-dire que là c'est dans un espace qu'on appelle la blockchain qui va valider chacune des opérations. Alors pour la Bitcoin, qui est la monnaie la plus connue, on sait qu'il y aura un nombre fini de Bitcoin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne produira plus du tout de Bitcoin et on n'échangera que le stock existant. Et c'est ça qui donnera potentiellement de la valeur ou fera baisser le cours de cette monnaie. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais je vous assure que ce n'est pas si simple.
Donc chaque monnaie, chaque crypto-monnaie a sa propre valeur, oui. Estimée là pour le coup en dollars ou
c'est ça.
En
alors,
euros.
Au départ, vous l'achetez, vous lui donnez une valeur avec de la vraie argent. Hein. C'est une fois que vous avez acquis au cours qui est celui du moment, cette crypto-monnaie. Après, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'échanger, vous pouvez la stocker. Mais au départ, bien sûr, vous achetez ça avec de la vraie argent.
Mais on l'utilise où, Benjamin, aujourd'hui, la crypto-monnaie ?
Alors, on peut l'utiliser dans plusieurs endroits. Donc, on ne peut pas encore acheter sa baguette de pain avec, parce que ce n'est pas encore une monnaie qui est en circulation partout. On l'utilise surtout aujourd'hui autour de grandes plateformes, des échangeurs centralisés. Donc, FTX était une de ces grandes plateformes. La plus connue, c'est Binance, qui a 90 millions de clients à travers le monde. Chaque jour, à peu près 14 milliards de dollars qui sont échangés en transactions dessus. Ensuite, il y a des plateformes comme FTX, Coinbase ou Kraken qui sont dans le top 5. Et ces plateformes, en fait, c'est comme un peu des banques du secteur. On peut y aller, donc on échange des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies, contre des dollars ou des euros. On peut les retirer, on peut les mettre sur des portefeuilles virtuels ou physiques. Donc, c'est des bonnes portes d'entrée dans le secteur, mais ces plateformes, elles ont un peu les mêmes risques que les banques. C'est-à-dire que c'est centralisé, que si jamais tout le monde demande à retirer ses dépôts en même temps, il y a un risque d'insolvabilité. Et en fait, elles peuvent fermer les retraits, ce qui s'est notamment passé avec FTX. Et contrairement aux acteurs bancaires, elles sont pas protégées par des institutionnels.
Ouais, justement, on va revenir sur le contrôle et l'opacité de ces marchés-là, Martial.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est très récent, hein. Bien entendu, les crypto-monnaies, ça date de 2009 pour le Bitcoin, et c'est en fait une réponse à la crise financière des subprimes qui a eu lieu à ce moment-là, et on voit apparaître ces monnaies virtuelles qui sont un peu sur la base d'une philosophie un peu anarchiste, c'est-à-dire qu'on veut se débarrasser du pouvoir des banques, du pouvoir des États. Et donc, vous avez là des monnaies apatrides, sans aucune régulation, avec leur propre mythologie.
Autonome.
Totalement autonome, gérées par des ordinateurs et validées par des ordinateurs, avec leur propre mythologie. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez un personnage qui s'appelle Satoshi Nakamoto, qui est censé être l'inventeur du Bitcoin, donc de la première crypto-monnaie. Personne ne l'a vu, personne ne sait s'il existe, personne ne sait s'il est mort ou bien si c'est un collectif de gens. Bref, quand je vous dis, il y a donc une sorte de Zeus de la crypto-monnaie et tout tourne autour de cela. C'est-à-dire qu'on est tous propriétaire de cet univers de la crypto-monnaie et personne n'en est véritablement le maître.
Alors si vous pensiez que ça ne concerne personne, la crypto-monnaie ou les crypto-monnaies, bien détrompez-vous. Voici ce que disait dans On défait le monde en juin dernier sur RTL l'économiste Philippe Erlin.
En fait, d'ores et déjà aujourd'hui, il y a plus de gens qui possèdent des cryptos que des actions. Ça concerne toutes les classes sociales. C'est justement pas les gens qui ont beaucoup d'argent, ce qui est plutôt le cas pour les actions ou l'immobilier. L'avantage des crypto-monnaies, c'est que c'est accessible à tout le monde. Même si vous n'avez pas des gros revenus, même si vous avez une petite épargne, si vous êtes convaincu de l'intérêt des crypto-monnaies, vous pouvez en acheter. On peut en acheter à partir de 100 euros. C'est pas une question de moyens financiers, voilà. Les cryptos.
Et même si les bitcoins coûtent cher, on peut acheter un quart de bitcoin, un tout petit bout de bitcoin.
Et c'est vrai ce qui est dit là, c'est-à-dire que vous avez à peu près 8% des Français qui ont des crypto-monnaies, notamment des bitcoins. Vous n'avez que 6% des Français qui jouent à la bourse. Hein. Et le risque aussi qui est décrit là, moi je vois ça comme un risque, c'est qu'effectivement ça cible d'abord les petits revenus en réalité. Et c'est pour ça que lorsqu'on a eu Nabila qui encourageait à prendre des crypto-monnaies, ça pouvait avoir un certain risque parce que ça s'adressait à une population qui n'a pas forcément les codes et les risques des marchés financiers puisqu'on est quand même dans cet univers-là. Il faut savoir que la majorité, en tout cas la plus grosse partie de ceux qui ont des bitcoins ou des crypto-monnaies aujourd'hui, ce sont les moins de 35 ans. Et ce sont des revenus estimés à moins de 1500 euros par mois. Oui. Donc vous êtes sur une population qui n'est pas richissime, effectivement, mais qui parfois même n'est pas éduquée véritablement au risque de la finance.
Alors, c'est aussi pour ça, hein, parce que finalement, ça concerne bien plus de gens qu'on ne le pense, que la faillite de FTX interroge. D'abord, pour qu'on soit très clair, Benjamin, quand on parle de cette plateforme-là, FTX, c'était quoi ? C'était une crypto-monnaie en tant que telle ou c'était une plateforme d'échange, une sorte de bourse aux cryptos?
En fait, FTX, c'était un peu les deux. Donc, à la base, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies virtuelles. Donc, les gens pouvaient venir échanger leur monnaie virtuelle contre des euros ou des dollars ou contre d'autres monnaies virtuelles. Elle était considérée comme très fiable dans le top 5 au niveau mondial. Mais c'était aussi une monnaie virtuelle dans le sens où c'était le FTT. En fait, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, donc, avait créé sa propre crypto-monnaie aussi, donc le FTT, qui était un peu la monnaie de base de la plateforme FTX et qui permettait aux investisseurs dessus notamment de profiter de rendements plus intéressants.
Donc c'était vraiment l'un des acteurs incontournables du secteur, tu l'as dit. Alors tu as partagé, Benjamin, il y a quelques jours, un tweet que j'ai trouvé assez marrant et éclairant sur les raisons de la faillite de FTX, ou quand le New York Magazine tentait d'expliquer ce gigantesque raté à un enfant de 5 ans, ça donnait quoi ?
Oui, alors en fait, selon cette description, il fallait s'imaginer un village dans lequel un sorcier vendait des haricots magiques dont les habitants ont raffolé jusqu'au jour où ils ont arrêté de croire en la magie du sorcier et ont réclamé leur argent. Et en fait, ils ont découvert que le sorcier avait tout dépensé. C'est un peu ça l'histoire de FTX, parce que à l'origine, en fait, donc avant FTX, Sam Bankman-Fried avait créé une société de trading qui s'appelle Alameda Research, qui lui a permis de faire ses premiers millions en crypto-monnaie en pariant sur l'arbitrage, en fait, sur la différence de valeur du Bitcoin sur différents marchés, en Asie, en Amérique, par exemple. Et il a ensuite créé sa propre bourse, donc FTX. Et c'est donc, il avait deux sociétés qui étaient censées être distinctes, mais qui se sont avérées, en fait, être gérées de façon très opaque par des proches et par lui-même. Et ce qui a mis le feu aux poudres, en fait, c'est le 2 novembre, un article du site spécialisé Coindesk qui a expliqué que la trésorerie d'Alameda Research, donc la première société de SBF, Sam Bankman-Fried, avait dans sa trésorerie un nombre anormalement élevé de FTT, la crypto-monnaie qui est créée sur la plateforme FTX. Et donc, en fait, ça signifie qu'au lieu d'être assuré par un actif tiers, comme le Bitcoin ou le dollar par exemple, la trésorerie d'Alameda était très exposée au cours du FTT. Donc en fait, ça signifie que si la valeur du FTT s'écroulait, les deux entreprises seraient en danger. Et ça, c'est une vraie menace dans la crypto, qui est un secteur peu régulé où la confiance des investisseurs est vraiment primordiale.
Il faut bien comprendre que cette faillite de FTX, c'est d'abord une énorme arnaque en réalité. Et que les FTT, c'était de la monnaie de singe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'avait de valeur que si on voulait bien y croire. C'est ce qu'on disait. C'est le haricot magique. Et là, en l'occurrence, et d'ailleurs, quand on regarde le casting, c'est assez amusant, le casting de ceux qui sont dans cette affaire, vous avez des esprits extrêmement intelligents, brillantissimes. C'est le cas, évidemment, de Sam Bankman-Fried, SBF, le fondateur, Il est diplômé d'une des plus grandes écoles des États-Unis, le MIT. Ses parents sont des professeurs de droit de Stanford, autre très grande université américaine. Il a comme collègue la patronne de Alameda, donc la première société dont parlait Benjamin, la PDG Caroline Ellison. Elle est diplômée, elle aussi, de Stanford, fille du directeur du département économie du MIT. On a notre brave SBF qui est l'un des plus gros donateurs de la campagne présidentielle de Joe Biden. Il est impliqué, il a donné 5 millions à la campagne de Joe Biden et il est connu de tous les principaux politiques démocrates. Et vous retrouvez donc une faillite avec des gens brillantissimes que tout le monde a envie de croire. Et pour compléter ce trio, vous avez un homme qui est nommé pour reprendre la faillite et solder en fait l'affaire FTX, qui n'est autre que John G. Ray III, the third. Lui, cet homme-là, personne ne le connaît évidemment, mais moi je me souviens très bien de lui, parce que c'est celui qui a géré la faillite d'Enron, un des plus grands scandales financiers du début des années 2000, enfin entre 2000 et 2010. Et cet homme-là, il est aujourd'hui en train de se charger de la plus grosse arnaque qu'on ait connue du côté des bitcoins. Et cet homme, qui a quand même un peu d'expérience, a quand même, dans les premiers jours où il a géré ce dossier FTX, commencé à dire « mais je n'ai jamais vu un bazar pareil ».
Même en étant passé par Enron.
Alors qu'il a fait Enron, et je peux vous dire que c'était déjà pas mal du tout, quoi. C'est incroyable.
Et c'est vrai que là-dedans, il y a autant une affaire d'ailleurs avec un grand A presque, que la question de la personnalité des dirigeants de cette entreprise, de cette plateforme FTX, Sam Bankman-Fried, donc, dont le rôle a été pointé du doigt.
Sam Bankman-Fried has become enemy number one within the crypto community.
Il est devenu l'ennemi numéro un de la communauté crypto, comme le disait ici ce journaliste de CNN. Tu évoquais, Martial, ces personnages assez flamboyants sur le papier, mais qui en fait se révèlent aussi finalement très très contrasté dans ce qu'on apprend aujourd'hui. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, la fiction pourrait bien prochainement dépasser, s'inspirer de la réalité, ouais. Un peu comme d'ailleurs avec le loup de Wall Street.
Tu sais ce que c'est que la finance ?
Oui, la finance, c'est vendre, acheter.
Non, ça n'a rien à voir. La finance, c'est du baratin, du bluff, de la poudre aux yeux.
Est-ce que ceci était légal ? Absolument pas. On se faisait tellement de fric qu'on savait plus quoi en faire.
Alors, il y a déjà un projet d'adaptation, en fait, hein, Benjamin, pour le cinéma ou les plateformes. En tout cas, ça va devenir un film ou une série.
Oui, apparemment, il y a Apple qui serait déjà sur le point d'obtenir les droits de publication de l'histoire de SBF, qui, en fait, même avant la faillite, était déjà suivi par l'auteur de The Big Short, Michael Lewis. Donc, c'est une histoire assez dingue. Enfin, le personnage était déjà suffisamment flamboyant, important pour justement être suivi par cet auteur et qui se retrouvait, en fait, au cœur du plus grand scandale financier des dernières années.
The Big
années.
Short, qui était aussi un film inspiré d'un scandale financier récent. Hein.
Il y aurait aussi une mini-série en préparation pour Amazon Prime Video sur le sujet.
Bon, en tout cas, même si le schéma de cette faillite de STX est finalement presque classique, hein, Martial, comme tu l'as expliqué, puisqu'il y a une escroquerie aussi.
Oui, il y a du délit d'initié, il y a du détournement de fonds. On prend l'argent à un endroit sur FTX et on l'envoie sur l'autre plateforme Alameda d'une autre société tiers. Enfin, c'est très classique tout ça, finalement. C'est une bonne vieille arnaque.
Mais ça pose quand même plein de questions sur l'avenir des crypto-monnaies, sur l'opacité de ces monnaies virtuelles. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité de contrôle. La Banque Centrale Européenne, par exemple, ou son équivalent américain, la Fed, elles n'ont pas du tout la main sur ces crypto-monnaies.
Et c'est sans doute pour ça que c'est une formidable nouvelle pour tous les États et tous les régulateurs du monde, ce qui est en train de se passer sur FTX. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Libra, qui avait été la monnaie virtuelle imaginée par Facebook en son temps. À ce moment-là, tous les régulateurs, tous les principaux politiques du monde s'étaient dit « mais là, on est en train de mettre le doigt dans un truc qu'on ne maîtrise plus », c'est-à-dire une monnaie apatride, comme je le disais tout à l'heure, que 2 milliards d'humains vont pouvoir s'échanger sans frais de transaction, etc. Puisque vous pourrez payer en Libra un produit que vous achetez en Chine tout en étant aux États-Unis et aucune autorité n'a la main là-dessus. Donc ils avaient réussi à stopper cette volonté de Facebook de créer sa propre monnaie virtuelle. Aujourd'hui, les États sont un peu dépassés. Ils essaient de se mettre sur le i-euro, le i-dollar, des monnaies un peu virtuelles comme ça, mais on sent bien que la structure n'est pas là. Avec ce qui se passe sur FTX, d'un seul coup, les politiques seront en droit, y compris d'ailleurs les démocrates qui ont été aidés par Sam Bankman-Fried, vont avoir intérêt, voire obligation de réguler ce marché. Ils vont pouvoir s'appuyer sur cet exemple en disant, voyez, on ne peut pas laisser faire ça, parce qu'aujourd'hui vous avez 1 million de personnes dont les avoirs, dont l'argent qu'ils avaient investi sur FTX est totalement, je dirais pas, c'est pas envolé, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu, et très vraisemblablement, ils ne le reverront jamais, cet argent. Donc, les États, en défenseurs des citoyens, vont pouvoir intervenir et dire là, il faut absolument réguler, il faut absolument qu'on encadre ce marché des monnaies virtuelles, parce que sinon, c'est un risque de faillite pour les individus et les citoyens.
Oui, parce que ceux qui avaient cru en FTX, aujourd'hui, ils n'ont plus accès à leurs fonds. Alors, tu parlais de Libra, cette monnaie de Facebook à laquelle s'étaient opposés de nombreux États, notamment la France, et voici ce que disait en 2019, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Cette privatisation éventuelle d'une monnaie soulève des risques d'abus de position dominante. Elle soulève des risques de souveraineté. Elle soulève des risques pour les consommateurs et pour les entreprises.
Voilà, les risques présentés par Bruno Le Maire, à l'époque déjà en 2019 concernant Libra. Aujourd'hui, Benjamin, il y a déjà des volontés de régulation qui se mettent en place ?
Bah oui, c'est le cas. Donc aux États-Unis, là, qui va être porté par la faillite de FTX. Donc là, il va y avoir une régulation à tour de vis sûrement assez sévère sur le secteur. En Europe, il y a le projet de loi MiCA qui doit arriver en 2024 justement pour donner un cadre au secteur et permettre aux entreprises crypto d'évoluer dans un cadre qui est entre guillemets validé par le système. Mais en fait, cette affaire, ce qu'elle met en lumière, c'est un peu le paradoxe de l'univers des cryptos, c'est-à-dire que les partisans des cryptos se rêvent un peu hors système. Ils imaginaient un monde où ils pouvaient faire des échanges financiers en dehors du système financier traditionnel. Et en fait, ce système crypto a été rattrapé par des acteurs centralisés, aussi centralisés que des banques, dont certains font faillite aujourd'hui et qui perdent avec eux tous les petits porteurs et les entreprises qui étaient dessus. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une régulation sûrement assez sévère, nécessaire. Donc, la crypto va être un peu avalée par le système traditionnel. On peut imaginer. Mais derrière, ça ne remet pas forcément en cause ses fondamentaux. C'est-à-dire que derrière la crypto, il y avait la blockchain, donc le registre distribué, réputé infalsifiable, qui peut être consulté par n'importe qui promet d'injecter plus de transparence dans la finance. Il y a l'utilité des cryptos pour le paiement, avec sa capacité à gérer des millions de transactions sans délai, sans frais, sans erreur de traitement. Et c'est aussi un moyen de répondre à la faible bancarisation dans certains pays, comme au Salvador ou en Argentine.
Cela dit, pour les gens qui ont déjà investi dans la crypto-monnaie, est-ce qu'il faut se dire, je retire mes billes, ou alors, je convertis vers des monnaies, des crypto-monnaies plus fiables? En fait, c'est quoi le meilleur conseil qu'on pourrait donner aujourd'hui, Martial?
Non, je crois que là, c'est un peu tard pour pouvoir retirer ses billes maintenant. Ce serait vraiment le pire moment, puisqu'il y a un an, en novembre 2021, on était au plus haut, et c'est là que beaucoup sont entrés, comme souvent, sur le marché. À l'époque, un bitcoin, ça valait 67 734 dollars.
Ouais, d'où l'intérêt d'acheter un petit quart ou même un dixième de Bitcoin, un centième.
Le lundi 7 novembre de cette année, c'est-à-dire juste avant que n'explose l'affaire FTX, on était déjà tombé à 20 500 dollars. Donc on avait déjà perdu 75% de la valeur en un an. Et là, évidemment, après l'affaire, on est autour de 15 000 dollars. Donc ça continue à baisser. Donc il vaut mieux pas vendre si on a des bitcoins ou des crypto-monnaies en ce moment. Et il faut raisonner, en fait, comme on le fait avec des actions boursières classiques. D'abord, il faut pas mettre de l'argent qui nous est absolument nécessaire. C'est la première règle de base, à la bourse comme en crypto. Et puis ensuite, il faut diversifier effectivement son portefeuille, avoir plusieurs crypto-monnaies de préférence plutôt qu'une seule, parce que vous êtes moins dépendant des fluctuations. Et il faut quand même, quand on se met sur la crypto-monnaie, avoir le cœur bien accroché et se dire que on travaille sur le long terme. Ceux qui veulent de la spéculation pour quelques jours faire le grand gap, ceux-là doivent être des professionnels. Comme dans la bourse classique. Lorsqu'on joue, on fait du trading pour pouvoir faire des super coups en jouant beaucoup d'argent sur très peu de temps. Là, il faut quand même être professionnel. Maintenant, ce que disait Benjamin est très juste. on ne remet pas en question avec FTX la validité et le système en tant que tel de la blockchain et de, des crypto-monnaies. Parce qu'il y a un espace à occuper véritablement qui est celui de sécuriser les transactions et de pouvoir avoir des systèmes un peu plus mondialisés parce qu'aujourd'hui ça coûte très cher les échanges monétaires entre les États. Donc le système et la philosophie en tant que tel, elle existe et elle ne sera pas remise en cause par, par FTX. En fait, ce qui se passe là avec FTX, moi j'avais écrit un livre en 2008 sur les subprimes. Ça s'appelait la faillite mondiale. Et à l'époque, je me souviens des mêmes constats et des mêmes discours que ceux qu'on entend aujourd'hui avec FTX. À savoir, on ne comprend rien. L'affaire Kerviel, qui doit être vaguement dans la tête de tout le monde, vous aviez les cadres de la Société Générale qui vous disaient... Bah, le problème, c'est que Kerviel, il faisait des trucs, mais on comprenait rien à ce qu'il faisait parce qu'on comprenait rien au système global. Et donc, la finance était devenue folle parce qu'on ne comprenait plus ce qui se passait dedans. On voyait juste des résultats à la fin, des bénéfices, des pertes, mais on ne savait pas ce qui se passait. Et on utilisait à l'époque une expression qu'on a réutilisée ici avec FTX qui s'appelait « too big to fail », c'est-à-dire qu'on estimait que de toute façon, même si on n'y comprenait rien, les banques étaient tellement solides qu'elles ne pouvaient pas faire faillite. Et puis on a eu Lehman Brothers. Et là on s'est dit, ah bah mince, finalement une banque peut faire faillite et tout le système s'est effondré. Et il a fallu le reconstruire, notamment en recréant ce fameux système des blockchains. Et bah là avec FTX, les gens ne comprenaient rien à ce qui se passait sur FTX et sur les FTT dont on parlait tout à l'heure. Mais ils se disaient, FTX est trop grosse pour faire faillite, c'est la deuxième, c'est solide, on lui fait confiance. Et on s'est aperçu qu'elle pouvait... évidemment tombé comme Lehman Brothers il y a maintenant 14 ans. Et donc, c'est ça la réalité. Donc, finalement, c'est assez banal ce qui se passe sur FTX et ça ne doit pas remettre, ça n'a pas remis en question les subprimes, le système monétaire et financier global et les marchés financiers, hein, pas trop. Et bien là, je pense que ça ne doit pas et ça ne remettra pas en question la blockchain et les crypto-monnaies dans leur ensemble sur la durée.
Mais ça aura au moins une vertu, celle peut-être aussi de poser un cadre à l'avenir autour de ces crypto-monnaies après la faillite de FTX. Merci à tous les deux, Martial Yu et Benjamin Hu, de nous l'avoir expliqué, de nous avoir éclairé dans cet épisode de Focus que vous pouvez retrouver comme d'habitude sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est également à écouter sur l'application RTL et sur rtl.fr.